Bonjour frères et sœurs, merci pour le privilège d'être encore une fois avec vous, une dernière fois, puisque maintenant c'est Marc qui est là ce matin, c'est notre première réunion ensemble, Marc Trévis, donc qui va reprendre le travail de responsable régional de Portes Ouvertes pour le sud-est de la France. Je suis vraiment très heureux de pouvoir le former. J'arrête à la fin de ce mois à Portes Ouvertes, hein, mais j'arrête pas le service pour le Seigneur. Mais voilà, merci pour votre accueil. Merci à Anne-Marie qui est antenne de Portes Ouvertes pour votre église et qui relaye les pétitions, les sujets de prière. Merci à chacun aussi d'entre vous. Vous savez, ça m'a fait chaud au cœur ce matin. Je suis arrivé puis quelqu'un m'a dit, on vous porte dans la prière, vous savez, hein, on prie pour Portes Ouvertes et pour le travail que vous faites. Alors, merci de tout cœur de pouvoir être soutenu par vous dans la prière. Le frère parlait des attaques de l'ennemi. Ben, Marc a eu une flébite, hein, la semaine dernière. On avait un week-end prévu ensemble la semaine dernière, un premier week-end, et puis voilà, il n'a pas pu m'accompagner. Et vous voyez que les attaques de l'ennemi sont violentes, hein, quelquefois. Hein. Voilà, mais ça ne l'a pas découragé. Et voilà, que le Seigneur vraiment le bénisse et le fortifie dans ce travail, qu'il puisse faire aller encore plus loin, aller faire encore plus pour la gloire de Dieu. Voilà, merci, on va remettre ce temps de méditation, hein, au Seigneur. Seigneur, merci de bénir ta parole, Seigneur. Que notre foi soit fortifiée, Seigneur. Que nous puissions nous engager. Tu t'es engagé, tu as été fidèle, tu as donné ta vie. Seigneur, pour nous, tu es notre exemple. Sois loué ce matin et que nos vies soient engagées aussi pour toi, pour ton service. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, vous connaissez la plupart Portes Ouvertes. Hein, c'est donc une mission chrétienne internationale qui a pour but d'apporter une aide spirituelle et matérielle aussi, et psychologique aussi, à ces frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi, ces frères et sœurs qui sont dans des pays où ils sont persécutés à cause du beau nom de Jésus. Et c'est par un apport de Bible, par des formations bibliques, par des formations psychologiques aussi, de l'aide psychologique pour toutes ces veuves au Nigeria, tous ces chrétiens traumatisés par la guerre en Syrie, en Irak, en Centrafrique, et aussi une aide matérielle pour ceux qui ont tout perdu à cause du bon nom de Jésus. Hein, c'était mon premier voyage il y a 20 ans au Maroc, où j'ai rencontré un chrétien marocain, et il nous a dit, voilà, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma famille m'a rejeté, j'ai perdu mon travail, mais j'ai gagné Christ. Et pour rien au monde, je retournerai à l'islam, je retournerai là où j'étais avant, parce que Christ est ma vie. Et il dit, ça c'est la vérité, ta parole est la vérité, j'ai trouvé la vérité. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de vérité, hein, d'une personne vivante. Alors, j'ai pu retourner au Maroc cette année, c'était mon dernier voyage. Et là encore, j'ai rencontré un chrétien marocain. Et je lui ai demandé, alors comment t'es venu au Seigneur? Raconte-moi, on commence toujours par les écouter, parce que c'est passionnant, hein, ce qu'il nous raconte. Il m'a dit, j'ai quitté l'islam le 11 septembre 2001. Vous voyez comme quoi Satan fait une œuvre qui le trompe, hein. Il a dit, là, quand j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai dit, c'est pas le vrai Dieu. Puis en plus, il m'a dit, j'ai vu Ben Laden qui se réjouissait. J'ai dit, c'est pas le vrai Dieu, c'est pas possible. Et puis voilà, il voulait suivre des cours d'anglais. Et puis ces cours d'anglais étaient faits par un chrétien. Et voilà, il est venu au Seigneur, il a donné sa vie au Seigneur, il s'est fait baptiser. Et il marche avec le Seigneur aujourd'hui. Hein. Alors ça m'a beaucoup, beaucoup touché, ce témoignage qui m'a donné. Alors, on va lire ce matin un verset. D'abord, on ne va pas le lire, vous le connaissez bien. Hein, je suis sûr que la plupart d'entre nous, on peut le réciter par cœur. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Alors, on va parler de ces trois choses ce matin en relation avec l'Église persécutée. Hein, qu'est-ce que l'Église persécutée peut nous apprendre au niveau de la foi, de l'espérance et de l'amour? Alors, la foi en qui? Quelle foi? Alors, on va lire un passage dans Daniel. Daniel 3, un passage que tout le monde connaît bien aussi. Hein. À l'école du dimanche, on nous l'a aussi lu. Hein. Daniel chapitre 3, où on voit trois juifs qui sont à Babylone. Hein. Il y en avait combien de juifs à Babylone à ce moment-là? Un paquet, hein. Ils avaient été déportés, il y en avait plus que trois. Hein. Et donc, Nebuchadnezzar, le grand roi, fait une grande statue et il demande à tout le monde de se prosterner devant sa statue. Alors, il nous est dit qu'il y a trois juifs qui ont refusé. Bon, et les autres? Il n'y en a que trois qui ont refusé? Alors, je pense, il ne nous est pas dit si les autres ont refusé aussi. Hein. On pense que Daniel aussi, il a refusé. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est pas dit. Bon. Mais il y en a trois qui ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et donc, ils se font choper, hein, ils sont convoqués par Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar leur donne une dernière chance. C'est là votre dernière chance. Voilà, ma statue, elle est là. Vous avez encore la possibilité d'éviter la fournaise de feu ardent, hein, si vous vous prosternez devant ma statue. Wow. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, on va lire leur réponse. Hein. Daniel 3, verset 16. « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. On ne va pas discuter 107 ans, ce n'est pas la peine. Ta volonté? Nous, on a la nôtre. C'est tout. C'est différent? Bah, tant pis. Hein? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise au roi. Et il nous délivrera de ta main. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as élevée. La foi en qui? Hein? C'est une bonne question, non? Vous n'êtes jamais posé cette question-là? Notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer. Il peut le faire. C'est la foi dans le Dieu. Tout-puissant. Merci. La foi dans le Dieu Tout-Puissant, hein? Il a créé le monde, il a ouvert la mer Rouge, il a nourri son peuple dans le désert. Qu'est-ce que c'est qu'une fournaise de feu ardent, hein? Il peut le faire, la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Mais ce n'est pas suffisant. Il va le faire. Hein? Il peut nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera de ta main au roi. Il va le faire. Ça, c'est la foi dans le Dieu d'amour. Hein? Le Dieu qui aime ses enfants. S'il est tout puissant, il ne peut pas laisser ses enfants comme ça. S'il les aime, il ne va pas les laisser comme ça. Nous sommes ses enfants, ils disent. Hein? Le Dieu que nous servons, il va nous délivrer. Il nous aime. Hein? C'est la foi dans le Dieu d'amour. La foi dans le Dieu Tout-Puissant. La foi dans le Dieu d'amour. Ah, puis là, on ne comprend plus rien. Sinon, ça veut dire, il va le faire, il peut le faire, il va le faire, et peut-être qu'il ne le fera pas. Ah, zut alors. Où est la foi? Est-ce qu'ils ont toujours la foi? Oui, ils ont toujours la foi. C'est la foi dans le Dieu souverain. La foi dans le Dieu souverain. C'est pas moi qui commande. C'est lui. C'est le Dieu que nous servons. C'est pas le Dieu qui nous sert. Ah. Peut-être qu'il a un autre plan. Peut-être que ce Dieu tout-puissant et plein d'amour nous fera traverser l'épreuve. Et là, on est en plein dans Hébreux 11, avec tous ces hommes de foi, hein, qui ont fermé la gueule des lions, qui ont vaincu. Hein. Et puis, il y a ceux qui ont été essayés, tentés, qui ont été martyrs. On est en plein dans Actes 12, ce chapitre où on voit Jacques qui est tué par Hérode, et Pierre qui est miraculeusement délivré de prison. Parce que l'Église priait. L'Église priait pour lui. Ça nous encourage à prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Alors, ils ont la foi dans le Dieu tout-puissant, la foi dans le Dieu d'amour, et aussi la foi dans le Dieu souverain. Et c'est beau ce qu'ils disent, parce qu'ils disent, sinon, sache au roi, que de toute manière, que nous soyons délivrés ou pas, nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. C'est la foi qui conduit à l'obéissance. Nous n'avons pas pris notre décision parce que Dieu va nous délivrer. Nous avons pris notre décision parce que nous, juifs, nous savons que dans les 10 commandements, il est dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ils connaissent. Hein? Ils savent ça. Même s'ils sont à Babylone, ils le savent quand même. Et donc, ils ont pris leur décision en fonction de ce que Dieu leur demande et non pas en fonction de des circonstances, en fonction de ce que Dieu va faire. Voilà la vraie foi. Une foi qui nous conduit à l'obéissance. Pas toujours facile d'obéir. Hein? Mais c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu qui nous demande de lui obéir. On ne peut pas être ses témoins dans ce monde aujourd'hui sans lui obéir. Alors, effectivement, hein, ils vont être jetés dans la fournaise et à ce moment-là, Nebuchadnezzar est complètement bouleversé parce qu'il dit, je vois 4 hommes qui sont dans la fournaise. Hein? On en a jeté 3 et il y en a 4. Et le quatrième est semblable à un fils des dieux. Jésus, lui-même, dans la fournaise, avec eux, comme on l'a dit tout à l'heure dans nos chants, hein? Il est avec nous, dans les prières aussi. Hein? Il est avec nous quand nous passons par le feu, quand nous passons par l'épreuve, quand nous passons par la difficulté. Il est là, avec nous, et il les délivre. Alors, ça nous encourage, frères et sœurs, hein? C'est un récit de persécution, ça, hein? Il y en a plein comme ça dans la Bible. On peut commencer à la Genèse, hein? Alors, j'ai une question à vous poser ce matin. Encore une. Et j'en ai d'autres après encore. Est-ce que l'Église persécutée, est-ce que ce texte, est-ce que l'exemple de nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause du bon nom de Jésus, est-ce que ça peut faire grandir notre foi? Est-ce que ça peut faire grandir notre foi? Eh bien, non. Ça peut fortifier notre foi. Ça peut encourager notre foi. Dans le sens où ça peut nous encourager à faire nous-mêmes un pas de foi. Mais tant que je ne fais pas un pas de foi, ma foi ne grandira pas. pour que ma foi grandisse, il faut que je fasse moi-même un pas de foi. Et donc l'Église persécutée nous encourage. Elle nous montre le chemin. Elle nous dit, vas-y. Hein ? Vas-y. Et la foi. Le Dieu que nous servons. Alors, ça nous encourage, c'est vrai, l'Église persécutée. J'étais il y a quelque temps, l'année dernière, dans un pays du Golfe. Vous savez où c'est, le Golfe ? Pas le Golfe. Le Golfe Persique. Hein ? Dans un pays islamique, un pays où tous les autochtones sont obligés d'être musulmans. Hein ? Pas d'autre choix. Mais dans ce pays, il y a des étrangers. Des étrangers qui sont allés travailler là-bas, dans ce pays. Et j'ai pu en rencontrer deux qui témoignaient de leur foi, qui nous ont dit, voilà, je vais l'appeler Salomon, hein, voilà. Et donc, ils témoignent de leur foi. Et alors, ça m'a étonné, ça m'a encouragé, parce qu'il nous a dit, voilà, je distribue 200 Bible, Nouveau Testament, Évangile, chaque mois. Dans un pays du Golfe. Hein ? C'est encourageant, hein ? Ça nous encourage. Alors je lui dis, mais c'est pas dangereux. Oh, il dit, Jésus nous encourage. Ah bon, Jésus vous encourage ? Ben, il dit, oui, on a témoigné à un musulman. Hein ? On lui a témoigné de notre foi. Et puis il est venu voir Salomon, il lui a dit, Salomon, je vais te tuer. Et le lendemain matin, il était dans le bureau de Salomon, en pleurant, disant, j'ai une vision de Jésus cette nuit, parle-moi de Jésus. Ah, il nous a dit, Salomon nous a dit, mais vous voyez, hein, le Seigneur est là, hein, il intervient, alors on ne va pas s'arrêter. Et il continue. Et puis il nous a raconté aussi l'histoire de ce jeune musulmans à qui ils ont témoigné, Salomon et son collègue, ils ont témoigné de Jésus. Et puis ce jeune musulman, cet autochtone, hein, a donné sa vie à Jésus. Il a décidé de suivre Jésus, il s'est fait baptiser. Et puis un jour, il dit à Salomon, écoute, donne-moi 3 Bibles. Une pour ma mère, une pour mon père et une pour ma sœur. Alors Salomon lui a dit, oh vas-y mollo là, hey, tu sais ce que tu risques. Oh, il dit, t'en fais pas, mon père est un homme très tolérant. Alors, Salomon lui a donné 3 Bibles, et puis il est allé chez lui, puis à un moment donné où il y avait son père, sa mère, sa sœur, il a dit, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Il a dit, voilà, j'ai décidé de suivre Jésus, le Fils de Dieu, hein, et puis j'ai un cadeau pour vous. Alors il donne une Bible à sa sœur, il donne une Bible à sa mère, puis il donne une Bible à son père, et son père jette la Bible. Et il dit, mon fils, maintenant tu choisis. Ou tu reviens à l'islam, ou tu me rends tes clés d'appartement, tes clés de voiture et ta carte bancaire, et tu t'en vas. Je te donne jusqu'à demain matin. Alors demain matin, ce jeune descend au petit déjeuner. Son père lui dit, alors tu as choisi ? Il dit oui. Jésus a donné sa vie pour moi. Je veux lui rester fidèle. Alors son père lui dit, bien, tu me rends tes clés d'appartement, tes clés de voiture, ta carte bancaire et tu t'en vas. Et ce jeune qui avait tout ce qu'il voulait, qui vivait dans le confort, se retrouve sans rien. Il vit misérablement. Et puis, Salomon perd sa trace. Et 10 ans après, Salomon reçoit un coup de fil. Tu te souviens de moi ? Alors, Salomon lui dit, oui, je me souviens bien de toi. C'est toi qui m'as demandé 3 Bibles. Eh bien, il lui dit, j'ai une bonne nouvelle. Ma sœur va se faire baptiser. Ma mère va se faire baptiser. et mon Père va venir assister au baptême. Qu'est-ce qui a opéré ce changement? Ce n'était pas des longs discours puisqu'il s'est fait chasser de chez lui. Il n'a pas pu faire des grands discours. Mais c'est son amour pour Jésus. C'est ça qui a bouleversé sa famille. Alors Jésus nous demande de faire un pas de foi ce matin. Combien ce serait dommage de partir de l'église ce matin comme on y est rentré. Le premier pas de foi, bien sûr, c'est demander pardon au Seigneur pour ses péchés, accepter Jésus comme son sauveur. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le ce matin. Il y a d'autres pas de foi? Lire la parole de Dieu, sérieusement. Prier. Prier pour l'Église persécutée. Témoigner de Jésus à quelqu'un qui nous connaît, mais à qui nous, peut-être, le Seigneur nous a demandé de lui parler, et puis nous l'avons peut-être jamais fait. C'est peut-être aussi pardonner. Le pardon aussi est un acte de foi. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire quel pas de foi on doit faire ce matin, mais que chacun, dans le secret de son cœur, dans cette relation avec le Seigneur personnel, Seigneur puisse nous parler ce matin sur ce pas de foi que nous pouvons faire pour le Seigneur. La foi, l'espérance. Où est l'espérance aujourd'hui? Où est l'espérance dans notre monde d'aujourd'hui? Je discutais avec un pasteur syrien qui vit là-bas à Damas. Et il nous disait que dans son pays, il y a 5 ans, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, la même chose que nous. Ordinateur, téléphone portable, autoroute, centre commerciaux, tout. Confort, tout ce que nous avons, ils l'avaient. Il dit aujourd'hui, on n'a plus rien. Aujourd'hui, c'est la guerre civile. Des musulmans tuent des musulmans. Et beaucoup de musulmans se demandent s'il y a encore un espoir. Dans l'islam, est-ce qu'il y a une espérance? Et ce pasteur disait, oui, il y a une espérance. Là où il y a la présence de Dieu, là il y a de l'espérance. Là où il y a la présence de Dieu, là il y a de l'espoir. Et voilà l'espoir pour la Syrie aujourd'hui, l'espoir pour l'Irak aujourd'hui, voilà l'espoir pour notre monde d'aujourd'hui. L'espérance, c'est l'Église. Mais pas n'importe quelle Église. Je ne parle pas de théologie, je ne parle pas de dénomination. Je parle tout simplement d'une Église qui aime. Une Église qui aime. Une Église qui partage. Une Église qui pardonne. Une église qui partage. C'est exactement le cas là-bas en Syrie aujourd'hui, où la plupart des réfugiés sont des musulmans, puisque avant la guerre, il n'y avait que 10% de chrétiens là-bas en Syrie. Donc, 90% de musulmans, puisque les juifs, il y a longtemps qu'ils sont partis en Israël, puisqu'ils ont le même statut que les chrétiens, ce sont des dhimmis, des soumis, ce sont... C'est la discrimination. Les chrétiens, les juifs sont discriminés dans ces pays. Et donc, ça veut dire 90% de musulmans. Donc, comme c'est une guerre civile où des musulmans tuent des musulmans, il y a les chrétiens qui s'enfuient de Syrie, mais il y a aussi beaucoup de musulmans qui sont réfugiés. Certains sont allés se réfugier à Damas, d'autres sont allés se réfugier au Liban, d'autres viennent en Occident. Mais ceux, par exemple, qui se réfugient à Damas, eh bien, il y a des églises à Damas. Et donc, les églises ont décidé d'aider ces réfugiés sans chercher à savoir est-ce qu'ils sont musulmans ou est-ce qu'ils sont chrétiens. Et donc, les musulmans qui reçoivent de l'aide de la part de ces églises là-bas, et donc toute l'aide de Portes Ouvertes passe par les églises, hein, là-bas, en Syrie, donc ces musulmans qui reçoivent de l'aide des chrétiens disent « on ne comprend pas pourquoi ». Ils disent aux chrétiens « mais pourquoi vous nous aidez ? On vous a discriminé pendant 1400 ans, on a tout fait pour vous rendre la vie impossible, on a tout fait pour que soit vous vous convertissiez à l'islam, soit vous partiez, hein ? Et maintenant vous nous aidez. Pourquoi vous faites ça ? Les Saoudiens, ils ne nous aident pas. Mais vous, vous nous aidez ? Pourquoi vous nous aidez ? Alors, les églises disent, mais voilà, c'est parce que notre livre saint, la Bible, nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous êtes notre prochain. Les musulmans disent, c'est marqué où ? Alors, les chrétiens disent, c'est marqué là, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. C'est marqué partout. Hein ? Ils disent, je peux le lire ? Ben oui, tenez, voilà. Alors ils lisent, puis ils disent, je peux en avoir une ? Ben oui, prenez-la. Hein ? Et les chrétiens en Syrie, aujourd'hui, eh bien, nous ont dit, on a plus de travail qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, personne ne nous demandait une Bible. Ils disent, aujourd'hui, on n'a plus de Bible. On n'a plus rien, on a tout donné. Et donc, ils ont demandé à Portes Ouvertes 50 000 Bibles. 50 000 Bibles pour la Syrie l'année dernière. Et on a pu faire passer 50 000 Bibles à l'intérieur du pays. Enfin, on a pu. Hein ? C'est le Seigneur qui agit. On le voit à chaque fois. Ce n'est pas nous. Hein ? Nous, on met les Bibles dans des trucs. Hein ? Et puis, voilà, ça passe. Merci Seigneur. Et puis, ça arrive entre les mains de ceux qui les attendent. Et pour fortifier l'Église, mais aussi parce que l'Église en a besoin. Parce que l'Église dit, aujourd'hui, c'est le temps de Dieu pour ces pays du Moyen-Orient. Ils disent, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu autant de musulmans qui viennent au Seigneur. On n'a jamais vu autant de musulmans qui ont des visions de Jésus. On n'a jamais vu, c'est vrai, autant de souffrances. Mais ce que les médias ne nous disent pas, hein, c'est ce que Dieu fait dans ces pays. Et ce pasteur nous disait, mais moi, il était venu ici en France pour nous parler. Et il nous a dit, mais moi, je retourne là-bas. C'est tellement beau, tellement merveilleux de voir Dieu à l'œuvre, de voir Dieu qui agit. Je ne veux pas aller au Canada, je ne veux pas aller en Occident, moi. Je veux rester là-bas. Mais il dit, on compte sur vous, sur vos prières. Alors, une église qui aime, une église qui partage, une église qui pardonne, qu'est-ce qu'on ferait si le bâtiment ici était détruit, hein ? Le bâtiment, l'église bâtiment, parce que l'église corps de Christ, on ne peut pas la détruire. Hein ? Mais l'église bâtiment, là, hein ? Si on vient, boum, on casse tout, vous arrivez, le dimanche matin, là, tout est cassé, détruit, brûlé. Il y a pire, hein ? Il y a pire quand c'est les chrétiens hein, qui sont tués, comme au Nigeria. Mais en Égypte, c'est ce qu'ils ont vécu. Hein, quand Morsi a été destitué, il y a eu 492 églises, maisons de chrétiens, bâtiments, écoles chrétiennes, etc., qui ont été détruits. Comment les chrétiens ont-ils réagi ? Hein ? Comment est-ce que nous réagirions ? Alors, on va passer le film. Est-ce qu'il est le projecteur ? On peut passer le film. Hein ? C'est un film sur des chrétiens en Égypte donc, qui ont eu leur église détruite. C'est une église orthodoxe. Hein ? Et on va voir comment ils ont réagi. Vas-y. C'est sous-titré, hein ?
سلام للكون وسماح من وسط دموع القلب ورمض وتراب وجراح جايين برسالة حب وسلام للكون وسماح
قلبنا مجروح ولكنه بيصلي لرب قدير واثقين في إرادته مجده يبان حقنا سايبين معاه ورجعنا معاه في ضمان
بنرنم وسط القهر وبنطلب مجده يبان حقنا سايبين معاه ورجعنا معاه في ضمان
ده أبو دليل دليل وكلام شهد على وعده أبواب جحيم بيزيل لو وقف قدام شعب
في الدنيا يهزه والمر في عنا لشان قابلينه علشان اسمه
وإيماننا بربنا ولا شيء في الدنيا يهزه والمر في عنا لشان قابلينه علشان اسمه
للشدة في أوقات السماح ساعات يقبل نتاج علشان الجروح ما يصحش وجوده فينا يبان حكمة أب يسند ويجمع شعبه
ورسالة في وسط الصعب يبعتها لابنه في ضعفه وبعطفه حكمة أب يسند ويجمع شعبه
للعالم هنقول تاني
à nos droits pour l'amour de ton nom. Notre foi est une alliance avec notre Seigneur, que rien ne pourra ébranler. Des paroles fortes, hein? Bien sûr, le Seigneur nous a aimés. Hein? Mais, et nous, quelle est notre réponse? Quand les chrétiens ont eu leurs églises détruites là-bas en Égypte, vous savez, c'est un pays où il est interdit d'évangéliser. Hein? D'interdit de parler, les chrétiens n'ont pas la parole dans les lieux publics. Hein. Eh bien, ils ont pris les cendres des églises brûlées et ils ont écrit sur les murs à l'extérieur des églises, hein, sur les murs extérieurs, ils ont écrit « Nous pardonnons ». Aimez vos ennemis, la Bible. Ça a choqué, ça a ébranlé l'Égypte. Et cette année, au mois d'avril, un musulman, un écrivain musulman, a écrit un article dans le plus grand journal de l'Égypte, celui qui a le plus grand tirage. Et en plus, le vendredi matin, le jour où tout le monde a congé et où tout le monde achète le journal et a le temps de lire le journal, hein, il a écrit un article, une page entière. L'amour dans la Bible. Un musulman. Hein, 50 versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'amour dans la Bible. Et puis il termine en mettant, mesdames et messieurs, où trouve-t-on un amour comme celui-là? Ah, les chrétiens ont dit, nous, on a fait notre part. On a pardonné. On a renoncé à nos droits. Et Dieu a fait sa part. Et un musulman a annoncé l'évangile dans toute l'Égypte. Les chrétiens ont dit, si on avait demandé au journal de faire une page comme ça, ils auraient refusé, premièrement. Puis, deuxièmement, s'ils avaient accepté, ils auraient demandé 1 million d'euros. Et là, on a dépensé 0 centime. Et l'évangile s'est répandu comme ça, dans toute l'Égypte. Voilà l'espoir pour notre monde d'aujourd'hui. Voilà l'espérance. Mais si l'Église prend les armes, il n'y a plus d'espérance. Si l'Église prend les armes en Syrie, il n'y a plus d'espérance. C'est fini. Mais si l'Église ne prend pas les armes, elle est vulnérable. Elle est la cible facile des intégristes. Et leur seul secours, il est là-haut. Alors prions pour cette Église. Continuons de prier pour que le Seigneur les protège, surtout pour qu'ils restent fidèles jusqu'au bout. Ils nous disent, ne priez pas pour que la persécution s'arrête, c'est pas la peine, puisque plus il y a de conversion, plus la persécution augmente. Hein? Et ils disent, priez pour que nous restions fidèles jusqu'au bout. La foi, l'espérance, il en manque encore un, l'amour. Voilà, je vois que l'heure passe. L'amour. Dieu est amour. Farouk, c'est le pasteur, un des pasteurs de Bagdad, dans la zone rouge. Le pasteur là-bas dans la zone rouge de Bagdad, il a dit, j'ai prié pour le réveil et puis le Seigneur a envoyé la guerre. Alors il dit, il n'était pas content, il dit, Seigneur, j'ai prié pour la guerre, j'ai prié pour le réveil, t'envoie la guerre. Et le Seigneur lui a dit, mais regarde ton église, elle est pleine. Alors un jour, il était en train de prêcher dans son église et puis il y a un membre du gouvernement chiite, puisque le gouvernement aujourd'hui, Bagdad, il est chiite, hein, qui passait dans la rue, qui a entendu « Dieu est amour ». Alors il est rentré dans l'église. Il a écouté le message de Farouk. À la fin, il a été voir Farouk. Il lui a dit « Écoutez, j'ai vu des chiites tuer des sunnites en criant « Dieu est grand ». J'ai vu, il dit, j'ai vu pareil, des sunnites aussi tuer des chiites en criant « Dieu est grand ». Mais je n'avais jamais entendu « Dieu est amour ». Il dit, quand j'ai entendu « Dieu est amour », je suis rentré dans votre église. J'ai écouté votre message. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur Jésus ? Et Farouk l'a amené au pied de la croix, a amené à demander pardon pour ses péchés, a accepté Jésus comme son sauveur. Et Farouk a prié pour lui. Il a reçu la paix dans son cœur. Il a dit, c'est cette paix que je cherche depuis des années. Je l'ai enfin trouvée. Et il a dit, Farouk, vous pouvez aussi, vous pouvez prier aussi pour toute mon équipe, tous mes collaborateurs. Alors, Farouk ne pouvait pas refuser. Hein. Il a dit, oui, bien sûr. Alors, quelques temps après, Farouk reçoit un coup de fil. Est-ce que je peux venir avec toute mon équipe? Vous pouvez leur parler, vous pouvez prier pour eux, qui reçoivent aussi cette paix que j'ai trouvée. Enfin, on me dit, oui, bien sûr, attendez, je vais vous donner un rendez-vous, je vais trouver un moment dans mon agenda de libre. Et l'autre lui répond, mais on est tous à la porte de votre église. L'amour. Dieu est amour. Mais est-ce qu'il y a une différence entre mon amour pour Jésus et puis leur amour pour Jésus? Notre amour pour Jésus, mon amour pour Jésus, il est souvent sentimentale. Seigneur, je t'aime, tu sais, tu m'as béni, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, tu m'as guéri, tu m'as aidé dans mes difficultés. Je t'aime. C'est vrai. C'est pas faux, hein? Mais ces frères et sœurs qui quittent l'islam pour Jésus, qui mettent leur vie en danger, qui risquent de tout perdre, le jour où ils décident de suivre Jésus, ils ont compris quelque chose que nous, il nous faut bien souvent toute notre vie pour comprendre. Pour eux, leur amour pour Jésus, c'est ce que j'appelle un amour spirituel. Seigneur, je t'aime. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout avec toi. Seigneur, je veux te rester fidèle jusqu'au bout. Je te donne ma vie. Pas seulement mon cœur. Je te donne ma vie. Elle t'appartient. Elle est à toi. Jusqu'au bout. Alors, ce matin, puisse notre foi grandir, puissions-nous faire un pas de foi, puissions-nous avoir un message d'espérance pour notre monde d'aujourd'hui, puissions-nous aussi avoir un amour pour Jésus qui grandisse, puissions-nous aussi prier pour ses frères et sœurs, je sais que vous le faites déjà, je vous en remercie beaucoup de leur part, j'espère que certains d'entre vous, vous pourrez voyager avec portes ouvertes aussi, venir les voir, les rencontrer. Hein, c'est passionnant de pouvoir faire un voyage et puis de rencontrer ses frères et sœurs et après de pouvoir prier encore plus pour eux. Merci pour vos prières pour ces frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Alors, vous savez que Portes Ouvertes est toujours désireuse d'aider les chrétiens persécutés et il les aide dans différentes façons, au niveau spirituel, en les entourant de leurs prières, au niveau matériel et aussi pour, ils proposent souvent des pétitions. Alors, je vous propose de participer à une pétition qui est en ligne, donc sur Internet. Vous allez sur le site de Porte Ouverte et vous trouvez cette pétition qui s'appelle « Pétition Espoir pour le Moyen-Orient ». C'est une pétition qui sera envoyée au secrétaire général des Nations Unies et Porte Ouverte souhaiterait obtenir 50 000 signatures. Actuellement, il y en a à peu près, il n'y en a pas tout à fait 4 000. Les populations de Syrie et d'Irak endurent d'immenses souffrances dues à des années de guerre et de violence. Nous croyons que les vies, les moyens d'existence et les libertés de tous en Syrie et en Irak doivent être protégés et garantis, y compris ceux des chrétiens. Depuis près de 2000 ans, les églises syriennes et irakiennes jouent un rôle vital dans la société. Pourtant, les chrétiens continuent d'être la cible de violences et de persécutions. Ils veulent porter les valeurs d'espoir et de compassion pour assurer le futur de leur pays dans les années à venir, mais pour ce faire, des changements urgents doivent s'opérer. Nous ne pouvons rester passifs quand les chrétiens et les autres minorités au Moyen-Orient font face à une menace sans précédent. Nous devons leur donner de l'espoir. C'est pourquoi nous vous exhortons à user de vos beaux offices au nom des chrétiens et des autres minorités religieuses de Syrie et d'Irak afin de garantir les cadres juridiques actuels et à venir en Syrie et en Irak, qui promeuvent et protègent l'égalité et l'inaliénabilité des droits de tous les citoyens, sans distinction de race, de religion ou de quelque autre statut, de garantir des conditions de vie dignes et constamment améliorées à tous les citoyens, et particulièrement aux réfugiés et aux déplacés internes qui retournent chez eux, en leur assurant notamment un logement décent et un accès à l'éducation et à l'emploi, d'identifier et d'équiper les responsables ecclésiaux et les organisations confessionnelles pour qu'ils jouent un rôle central et constructif dans la réconciliation et la reconstruction des sociétés syriennes et irakiennes. Nous avons vu ce matin à quel point c'est important que les chrétiens restent en Syrie et en Irak, qu'ils restent pour venir en aide à leurs compatriotes, pour prier, pour témoigner, pour donner des bibles, pour être vraiment donner un message d'amour. Et pour cela, je crois qu'on peut vraiment participer à cette pétition. Voilà, alors je ne sais pas si Pierrick peut mettre à disposition un ordinateur au fond de la salle pour ceux qui n'ont pas l'ordinateur chez eux pour signer directement. Sinon, vous le faites chez vous. Vous mettrez la pétition sur le site de l'église. D'accord, voilà. Donc vous pouvez le faire aussi par l'intermédiaire du site de l'église. Merci. Et puis, Eric va encore faire quelques annonces.
Juste pour ceux qui ne connaissent pas le magazine Portes Ouvertes, hein, certains le connaissent depuis très longtemps. Voilà, c'est un mensuel qui vous donne des informations, des témoignages sur l'Église persécutée et sur les projets de Portes Ouvertes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à ce magazine. Hein. Il y a un calendrier de prière pour prier chaque jour. Pour ces chrétiens, on ne peut pas tous aller dans ces pays, mais on peut tous prendre quelques minutes chaque jour, chaque semaine, pour prier pour eux. Merci de vous abonner à ce magazine. Il y a donc une table là-bas avec des feuilles. Il suffit de remplir ce talon là ce matin, et puis vous me le laissez, et comme ça, vous serez abonné à ce magazine. Il est à 11 euros par an, 11 euros pour une année. Voilà. Et puis, donc, vous avez des livres. Alors, je sais que vous en avez déjà beaucoup, des livres de Portes Ouvertes, mais voilà, deux nouveautés, Sans audace, pas de couronne, et puis Exode, Mission impossible. Voilà. Merci, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse.
Après ce que nous avons entendu, c'est le moment de partager la scène. Et je vous invite à écouter les quelques versets qui sont dans 1 Corinthiens 11, qui nous parlent de la scène. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et on a vu ce matin, on annonce la mort du Seigneur, c'est vrai, on annonce aussi l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors je serai bref parce que l'heure a passé vite ce matin, mais j'aimerais juste qu'on réfléchisse à trois aspects de la scène lorsqu'on l'apprend. Tout d'abord, l'aspect de communion entre nous et notre Dieu. C'est vrai que cette œuvre, il l'a accomplie pour chacun de façon individuelle. Et puis ensuite aussi le fait qu'on partage la coupe en Église, c'est-à-dire dans le corps de Christ, entre nous qui sommes ses enfants. Et la troisième notion, qui est en lien aussi avec ce qu'on a partagé par rapport à l'Église persécutée, c'est que lorsqu'on partage cette coupe, on la partage aussi en communion avec tous les enfants de Dieu sur le monde, avec tous ceux qui sont au bénéfice de son salut, et notamment ceux qui sont persécutés. Voilà, est-ce que quatre personnes voudraient venir faire la distribution du pain et du jus de raisin? Comme ça, on gagne un petit peu de temps avec quatre personnes. Merci. Voilà, je vais demander à Pierre, tiens, de prier pour ce pain, et à Jean-Paul ensuite de prier pour ce jus de raisin.
Oui, merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps. Ton corps qui a été meurtri, Seigneur. Tu t'es donné pour nous sans jamais vouloir te battre. Par une parole, tu aurais pu détruire toutes ces personnes, Seigneur, mais tu les as aimées. Tu leur as pardonné. Merci pour tout ça, Seigneur. Amen.
Seigneur, on veut te... Oui, difficile de te remercier pour ton sang qui a coulé, mais oui, on veut te remercier pour cette invitation à ta table où, c'est vrai, il y a ce symbole et on veut penser à tous nos frères et sœurs persécutés dans le monde et on veut prendre ce repas avec eux ce matin et te demander, Seigneur, que tu les guides, que tu les gardes, que tu donnes la paix, comme on l'a entendu ce matin. Merci pour ce témoignage qu'il nous envoie. Merci parce qu'il fortifie notre foi, Seigneur. On veut vraiment te demander de prendre soin de ton Église, partout sur le tour de la terre, Seigneur. Merci pour ton invitation, ce repas, on veut le prendre dans la joie, dans la reconnaissance et dans l'annonce de ton retour. On veut te dire, viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen.
Je vous invite à rester dans le recueillement et pourquoi pas à prendre un temps de prière pour l'Église dans le monde qui est persécutée, qui vit des moments difficiles, mais on le voit qui est aussi accompagnée par notre Dieu. Alors si des personnes souhaitent partager la coupe, il suffit simplement de lever la main et je passerai dans les rangs. Je partage avec vous les annonces. Donc on a prié pour... nos offrandes pour les dons qui se font dans l'Église. Et aujourd'hui, on va remettre les dons de ce jour à portes ouvertes. Je vous rappelle aussi le marché de Noël donc, qui a commencé vendredi soir et qui se finit ce soir. Si vous voulez passer, acheter des choses, il est super le stand. N'hésitez pas, profitez parce que ce soir, ce sera fini. Sinon, je vous laisse voir les annonces de la semaine. Donc mardi, on a l'étude biblique, qui est donc la suite du culte de dimanche passé, sur le sujet des deux chapitres 5 et 6 de 1 Corinthiens. Si vous ne les avez pas lus, je vous invite à les lire. Pas forcément toujours évident à comprendre ces chapitres, qu'est-ce qu'ils font là dans la Bible. Moi, je vous invite vraiment à les lire, parce que ce n'est pas pour rien qu'ils sont là. Ensuite, samedi, on a la fête de Noël. Je pense que tout le monde est au courant. Alors, pour qu'elle puisse avoir lieu, il y aura du boulot de préparation, de mise en place. Alors, on vous invite à venir sur place déjà à partir de 8h30 pour mettre en place la scène, les chaises, etc. On va enchaîner aussi par la préparation aussi pour le partage de la soirée, donc au niveau de l'apéritif, au niveau de ce qu'on va partager pour manger aussi, et qu'on propose aussi à nos invités. Donc il y aura aussi du travail de préparation à ce niveau-là. Comme ça fera moins aussi pour l'après-midi, puis pour la soirée. Il y a encore besoin de réchauds. Il faudrait encore 4 ou 5 petits réchauds. Vous savez, ces petites plaques de cuisson électriques, qui sont amovibles, indépendantes, avec un fil, on branche dans une prise, paf. Alors c'est juste pour tenir au chaud des boissons chaudes, des choses pour la collation. Alors il faudrait les prévenir ou les donner soit à Philippe, soit à Nancy. Il y a encore au fond de la salle la liste pour s'inscrire, pour préparer des choses à partager. C'est important qu'il y en ait assez. En général, il y en a assez, mais ça ne fait rien. C'est important aussi qu'il y ait beaucoup de monde, parce que plus il y a de personnes, plus c'est facile à se répartir les choses. Je vous rappelle aussi donc que le samedi d'après, la chorale va participer à une veillée de Noël à Coponnet. Coponnet, donc, entre Saint-Julien et Annecy, en dessous de Cruseilles. Ouais. Donc, les flyers sont arrivés. Ils sont sur, il y en a quelques-uns sur le petit meuble au fond de la salle. Alors prenez-les, c'est important de les donner, surtout si vous avez des connaissances qui habitent dans cette région. C'est important de le faire connaître. Sinon, on pense vraiment à Nastia ce matin. On est content que tu sois parmi nous. Sois béni dans ta santé aussi. Fortifié aussi, c'est vrai, on veut continuer de penser à toi. On pense aussi à Rachel. Rachel qui est toujours affectée fortement dans sa santé, et ce à plusieurs niveaux, avec aussi des difficultés, des effets secondaires avec certains médicaments, médicaments dont elle a besoin. Donc, c'est pas facile. Pensons vraiment à elle. Continuons de la remettre à notre Dieu, de prier pour elle. Remettons aussi à notre Dieu Jonathan, Odélia qui va bien, qui grandit, qui est une sympathique petite fille. Voilà. Continuons à prier pour eux. Alors, j'ai pas eu. Je pense maintenant à Brian et Hélène. J'ai pas eu plus de nouvelles. Je sais pas, Raymond, si tu en as eu plus. Voilà, oui. Donc pensons à eux pour leur santé, bien sûr, mais aussi c'est vrai pour l'avenir, pour la façon comment envisager la suite pour eux. C'est pas forcément simple et facile. Continuons de penser à Roland qui a repris le travail là. J'ai pas eu plus de nouvelles en détail. Continuons de penser aussi à Anne-Lise. Annelise, donc, qui est toujours à beau séjour, qui a besoin de nos prières, parce que c'est, voilà, c'est, elle est aussi âgée, c'est pas forcément tout facile. Elle est encore dépendante au niveau de la nourriture, au niveau de son traitement, ses suivis. Et puis, c'est important aussi de penser à elle par rapport à la suite. Voilà, c'est pas forcément simple. Lorsqu'on est âgé, où aller quand on quitte l'hôpital, quand on a encore des besoins, qu'on n'est pas en grande forme. Voilà. Je vous rappelle aussi les calendriers qui sont toujours en vente. Le temps passe, on arrive bientôt à la fin de l'année. C'est important d'y penser. Pensez-y surtout pendant qu'il y en a encore. Encore deux petites annonces pratiques. Il y a toujours ce trousseau de clés qui a été trouvé dans la cour. Et puis, il y a, à la sortie, juste à la sortie de l'église, il y a un sac, une petite sacoche avec des voleurs pour ponter deux batteries de voiture. Quelqu'un les a peut-être oubliées. Alors, si c'est quelqu'un de l'église, ben, récupérez-les. Oui ?
N'hésitez pas, c'est votre dernière chance de l'année. Dimanche prochain, c'est le dernier club
voilà,
d'enfants.
Juste.
Donc, si vous avez un enfant dans votre entourage que vous n'avez pas pu, vous n'avez pas réussi à inviter, profitez encore de cette dernière fois, dernier club d'enfants, et c'est un culte d'évangélisation dimanche prochain. Donc invitez vos voisins, vos amis pour ce super.
Ouais. Merci. Merci Emmanuel. Je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Psaume 40. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.